Voilà, nous avions commencé l'étude sur le catholicisme. C'est très important d'étudier cela parce que le catholicisme est impliqué dans plusieurs domaines de vie des humains, mais aussi dans la relation avec beaucoup des mouvements religieux. D'ailleurs, une des techniques du catholicisme, c'est arracher des accords avec d'autres groupes, trouver des ponts pour pouvoir avoir certains échanges et puis, comme le passé nous le montre, ça finit toujours à l'avantage du catholicisme. Nous avons donné un passage biblique pour comprendre la situation, Apocalypse 17, qui parle de la Grande Babylone, afin qu'on comprenne. Ça peut paraître très choquant pour certaines personnes qu'on dise clairement que le catholicisme est géré par l'ennemi, par le diable, mais nous sommes obligés de le dire. Parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous relisons Apocalypse 17. Apocalypse au chapitre 17. Il est écrit ceci. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole. Viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est aussi l'un des sept et elle s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau, l'agneau c'est Jésus, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc on avait expliqué que les caractéristiques données ici sur la femme correspondaient à une ville. On en parle aussi comme d'une ville, et ces caractéristiques allaient ensemble avec ce qu'on peut voir à travers le catholicisme. C'est-à-dire que c'est le seul mouvement qui a des relations avec tous les rois de la terre. Donc c'est ce qui est écrit dans ce texte, que Babylone la Grande avait des relations avec tous les rois de la terre. Et aujourd'hui, dans le monde, le mouvement spirituel humain, en même temps, qui a cette caractéristique, il n'y a que le catholicisme qui a cette caractéristique d'avoir des ambassades, des nonciatures partout. Et le catholicisme a signé aussi des contrats avec ce qu'on appelle des concordats, avec presque tous les pays du monde, des contrats qui leur donne un certain pouvoir dans le pays. Donc, et il est écrit aussi que cette ville est assise sur sept collines et Vatican est une ville qui, Rome est une ville qui est entourée de sept collines. Or, le Vatican se trouve à Rome. Et il est écrit aussi que, au verset 15, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée, c'est-à-dire cette église-là, ce mouvement-là, est assis, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc c'est un mouvement qui arrive à exister, à travailler dans tous les peuples, dans toutes les nations et dans toutes les langues. Et nous avons dit, pour mieux étayer nos propositions, nous avons raconté le début de l'histoire du christianisme. Comment au début, l'Église était persécutée, mais malgré la persécution, l'Église se multipliait. L'Empire romain persécutait l'Église, et malgré ça, l'Église se multipliait. Donc en se multipliant, même s'il y avait la persécution, les dirigeants commençaient à avoir un certain pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, quelqu'un qui dirige 500 personnes, 1000 personnes, même s'il y a la persécution, il a quand même un certain pouvoir. Et il commençait parfois à avoir des polémiques entre les chrétiens, entre leurs dirigeants. Et puisque leurs dirigeants commençaient à avoir un certain pouvoir, il s'est fait que lorsque un empereur romain, Constantin, a prétendu se convertir, ben il s'est fait que ce Constantin-là, en prétendant se convertir, il s'est mêlé des choses spirituelles. Donc, il a commencé à entretenir des relations avec les dirigeants chrétiens, de sorte qu'il a même fait convoquer un concile. Donc, un concile, c'était une réunion de tous les responsables chrétiens de l'époque dans une ville donnée, où ils allaient discuter de la doctrine. Par exemple, s'ils ont appris qu'un tel prêche une chose, alors qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec la chose, pendant ce concile-là, ils allaient, c'était comme une sorte de tribunal, ils allaient juger cette personne, que cette personne donne les arguments qui justifient sa position, et si cette personne-là est appuyée par la majorité, sa doctrine passe. Si cette personne est réfutée par la majorité, sa doctrine ne passe pas et on lui enjoint, on ordonne à cette personne de céder à la logique de la majorité. Voilà. Et si elle ne cède pas, elle est considérée comme hérétique. Et souvent, puisque le pouvoir politique était du côté des gens qui faisaient le concile, ben souvent, ça pouvait finir par des condamnations à mort ou au bûcher si la personne ne voulait pas se rétracter. Voilà. Donc, quand Constantin s'est converti, donc, il a commencé à avoir mélange entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Et qui dit pouvoir politique, dit aussi le pouvoir militaire. Ce mélange-là a fait que le catholicisme, enfin, c'était pas encore, on ne pouvait pas encore appeler ça catholicisme, a fait qu'on avait expliqué qu'autrefois, il y avait plusieurs évêques. Donc, chaque ville avait son évêque. Avec le temps, les évêques les plus connus, c'était les évêques aussi des plus grandes villes. Les évêques d'Antioche, de Jérusalem, d'Alexandrie, de Rome, ainsi de suite. Mais comme Rome était la capitale, ben l'évêque de Rome commençait à vouloir dominer les autres évêques. Ce qui fait que, avec le temps, il y est arrivé. Il est arrivé à diminuer l'influence des autres évêques, soit par leur élimination, soit par le schisme. Donc il y a eu une division progressive entre l'Église d'Orient et d'Occident. Donc l'Église d'Occident, c'est l'Église gérée directement par Rome, donc la partie Europe occidentale, et l'Église d'Orient, c'était la partie Europe orientale, la Grèce, la Turquie, voilà, et puis l'Asie et l'Égypte. Puisque entre-temps, Rome a été, plutôt, les Romains se sont divisés en deux empires, un empire oriental, un empire occidental. Donc l'empereur oriental soutenait les évêques de sa région, l'empereur occidental soutenait les évêques de sa région. Donc c'était devenu, les conflits chrétiens étaient devenus des conflits aussi politiques et militaires. Donc dans ce mélange-là, petit à petit, le catholicisme romain a commencé à prendre de l'ampleur jusque au moment où il y a eu le schisme. Donc dans les années 1100, dans les années 1000, il y a eu division entre l'Église orientale, ce qu'ils appelaient l'Église, hein, en tout cas le catholicisme oriental et le catholicisme occidental. Donc c'est ce qui a conduit qu'en Orient, il continuait à avoir plusieurs patriarches. À l'époque, il y avait Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople, donc 7 environ patriarches. Et de l'autre côté, il n'est resté qu'un seul patriarche, donc un seul qu'on a appelé par la suite pape. Donc l'évêque de Rome, lui, il est devenu le chef de toute l'Église occidentale, mais dans l'Église orientale, il continue à y avoir plusieurs patriarches, donc plusieurs papes en quelque sorte, alors que du côté occidental, il n'y avait qu'un seul pape. Donc cette division a fait que le mouvement orthodoxe, donc c'est-à-dire avec plusieurs papes, plusieurs patriarches, a continué sa voie de son côté, et le mouvement romain a continué sa voie de son côté. Mais le mouvement romain a réussi à avoir beaucoup plus d'influence que le mouvement orthodoxe. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme le catholicisme, c'est-à-dire c'est la partie romaine de l'Église du début. Voilà. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les particularités de ce mouvement? Donc, on rappelle, la constitution est liée à un mélange entre la politique, les intérêts financiers, les intérêts militaires, les intérêts de domination et les choses religieuses. Donc, on a mélangé les deux. Donc, ce qui fait que partout où il y avait le catholicisme romain, il y avait en même temps la collusion, l'association avec le pouvoir politique pour dominer. De sorte qu'il est arrivé même à un certain moment où le pape avait un pouvoir direct humain. Voilà. Alors que normalement, on se souvient de ce que Jésus avait dit on lui a demandé s'il fallait payer l'impôt ou pas. Jésus avait dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus avait posé les bases d'une certaine séparation entre le pouvoir humain, politique et militaire et le pouvoir spirituel. Donc Jésus avait bien fait comprendre que les choses humaines sont réglées par les logiques humaines, les lois humaines, et les choses spirituelles sont réglées par la logique de la parole de Dieu, par la logique de Dieu. Donc il ne faudrait pas les mélanger. Et même quand vous lisez vos Bibles, notamment dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres et les Évangiles, vous ne voyez aucun des apôtres user de collaboration avec un pouvoir humain pour avoir de l'influence. C'est les apôtres, quand vous lisez les Épîtres et les Évangiles, restent des hommes de prédication et de prière. C'est tout. Vous ne voyez pas ces gens-là utiliser le pouvoir humain pour s'imposer. Même quand on lit l'Ancien Testament, c'est la même chose. Donc on ne voit pas une association directe entre le spirituel et le temporel, donc c'est-à-dire le pouvoir humain, sauf au début quand il s'agissait du cas de Moïse, qui était à la fois presque les trois, quoi. Voilà. Même Moïse, souvenez-vous, Dieu lui a demandé de nommer quelqu'un d'autre sacrificateur, c'était son frère Aaron. Donc il y avait toujours le souci de Dieu pour les cérémonies religieuses, c'était pas Moïse, c'était Aaron. Donc, on voit dès le départ le souci de Dieu de séparer les deux. Mais le catholicisme, justement, sa force vient du fait qu'il a mélangé les deux. Le but, c'est quoi? C'est de dominer l'humanité en touchant et le politique et le spirituel. Donc, le livre Les Deux Babylones nous explique que cela remonte à la tour de Babel. Dans la tour de Babel, les humains voulaient construire quelque chose pour rivaliser avec Dieu. Et Dieu a mis beaucoup de langues pour les séparer. Et en se séparant, ils ont gardé l'esprit de l'idolâtrie, l'esprit anti-Dieu qui s'est répandu. Donc toutes les religions que nous connaissons viennent de la tour de Babel, ça s'est répandu dans l'humanité entière. Et donc le catholicisme, quand nous voyons son fonctionnement, il embrasse toutes ces religions-là en son sein, en quelque sorte pour avoir une certaine domination mondiale. Elle embrasse toutes les religions, il embrasse toutes les religions qu'il rencontre. Et c'est ça le travail que nous voyons au catholicisme. Et cela a produit maintenant ce qu'on appelle des dogmes. Les dogmes sont des principes qu'on considère comme intouchables, émis par l'organisation qu'on appelle catholicisme. C'est-à-dire que leurs dirigeants ont émis des idées et ils ont décidé que ces idées-là devraient être acceptées par tout le monde. Et quand on n'acceptait pas ces idées, donc on était considéré comme hérétique. Et ces idées sont établies dans ce qu'on appelle le droit canon. Donc c'est une liste de principes et des idées qu'on considère, que ces gens-là considèrent comme étant vrais et qu'il ne faut pas toucher à cela. Et un exemple de dogme, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, le dogme qui dit que Marie a été conçue sans péché. Donc, Marie était pure à 100%, était conçue sans péché. Un exemple de dogme, c'est le dogme de Marie, mère de Dieu. Donc, on considère que Marie est la mère de Dieu. Voilà, c'est un dogme. Ce sont donc des idées, des principes, des théories posées par les dirigeants du catholicisme et imposés à tous les catholiques. Et bien sûr, c'était intouchable. Donc c'est pourquoi on les appelle les dogmes. Donc intouchables, et on doit les considérer comme vrais. Et donc, parallèlement à la présence plus ou moins furtive de la Bible, il y avait la présence beaucoup plus volontaire des dogmes. Donc, et ce sont les dogmes qui jusqu'aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis un certain nombre de conciles. Donc, vous vous rappelez, les conciles, c'était quoi? C'était la réunion des évêques de plusieurs villes pour discuter de, comme sous forme d'un tribunal des doctrines. Et à la fin de chaque concile, on retenait des points de doctrine que tout le monde devait accepter. Voilà. Et au fil des conciles, il y a eu plusieurs dogmes qui se sont installés. C'est ce qui fait que aujourd'hui, le catholicisme est dirigé par, officiellement par trois principes. La Bible, donc je commence par l'ordre d'infériorité. La Bible, ordre d'infériorité, troisième. Deuxième, les dogmes, donc les pères, donc les écrits des pères de l'Église, ce qu'ils appellent les pères de l'Église, donc les fondateurs du catholicisme, et l'ordre le plus important, c'est le magistère, c'est-à-dire la capacité qu'a le pape de dire quelque chose qui soit infaillible. Donc, il y a même un dogme qu'on appelle l'infaillibilité papale, c'est-à-dire ce dogme-là décrète que le pape est infaillible lorsqu'il parle, j'ai oublié, ex cathedra. Voilà. Lorsqu'il parle sous l'onction du Saint-Esprit, il est infaillible. Donc, dans certaines conditions, il est infaillible. Donc, ce qui fait que le catholique, même s'il lit quelque chose dans la Bible, il doit accepter l'interprétation qu'en donne le pape. Donc, ce n'est pas ce que lui lit qui est important, c'est l'interprétation, c'est le magistère, l'interprétation qu'en donne le pape. Souvent, beaucoup de gens se sont posé la question, mais pourtant, mais c'est clair ce qui est écrit. Comment les gens ne comprennent pas? Mais non, mais le catholicisme est dirigé en ordre supérieur, c'est le magistère. C'est-à-dire que c'est le pape qui doit te dire ce que tu dois comprendre d'un verset. Ce qui fait que, donc, un bon catholique finira par accepter ce qu'on lui dit, puisque le magistère du pape, c'est ça qui est le principe supérieur. Donc il y a trois principes, la Bible, donc niveau troisième, niveau deuxième, les écrits de Père de l'Église, et bien sûr les dogmes, et niveau premier, le magistère du pape. Donc le pape reste le chef. Ça veut dire que quand vous entendez par exemple, ah mais il y a eu concile, aujourd'hui il y a eu concile, par exemple Vatican II, les gens vont se réunir, ils vont discuter. À la fin, c'est la vie du pape qui va compter. Les conciles d'avant étaient différents des conciles d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans les conciles d'avant, même si c'était toujours le catholicisme, on pouvait avoir des évêques avec des contradictions, même s'ils étaient dans le même mouvement, et que la majorité l'emporte. La grande différence avec les conciles d'aujourd'hui dans le mouvement catholique, c'est que la majorité n'a pas de poids vis-à-vis du pape. Parce qu'entre-temps, dans les années, donc je crois au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, il y a eu un concile qui a décrété l'infaillibilité papale. Donc ce qui fait que vous pouvez vous réunir pendant 6 mois, adopter une idée, puisque le pape est infaillible, ce que lui dira de votre idée, c'est ce qu'il emporte, c'est ce qui emportera. Voilà le catholicisme. Maintenant, tous ces dogmes-là qu'on peut vous citer les uns après les autres sont anti-bibliques la plupart. Déjà, l'infaillibilité papale, c'est anti-biblique, puisque c'est écrit qu'il n'y a point de juste, dans Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Dans Romains 3, 23, c'est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est écrit tout cela. Le dogme « Marie, mère de Dieu », c'est faux. Puisque Dieu n'a pas de commencement. Donc il est éternel. Éternel, ça veut dire ni commencement ni fin. Comment un humain qui a eu un commencement peut être la mère de Dieu? Non. Donc ça voudrait dire qu'on décrète cet humain-là plus Dieu que Dieu lui-même, plus grand que Dieu lui-même. Donc c'est un dogme qui est anti-biblique. Par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception. Comme quoi Marie serait née sans péché. Ça contredit Romains 3, 23, qui dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il y a plein d'autres dogmes comme ça et autres théories de doctrine qui sont vraiment anti-bibliques. Et mis à part ça, la façon de procéder, de travailler du catholicisme nous montre que c'est vraiment l'instrument du diable pour dominer le monde. Oui. Question.
Comment t'expliques aux catholiques, parce que Jésus, quand ils disent Marie est mère de Dieu, mais Jésus c'est Dieu, il est fils de Dieu.
Il est aussi homme.
Il est aussi homme, mais peut-être qu'eux ils disent quoi? Que juste que Jésus est la mère de Dieu, Dieu le créateur, ou la mère de Jésus, fils de Dieu?
Non, même si c'était la mère de Jésus, même si c'était, ils voulaient dire, parce qu'ils font le raisonnement mathématique suivant. Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Oui. Marie, est-ce que c'était la mère de Jésus? Oui. Donc, Marie est la mère de Dieu. Transitivité, on appelle ça en mathématiques. Non, mais c'est faux. Il y a une tricherie dans le raisonnement. Parce que Jésus, il est à la fois Dieu et homme. Voilà. Donc, et deuxièmement, donc Marie est la mère de Jésus homme. Donc, Jésus homme a pris naissance dans le ventre de Marie. Jésus existait, donc selon Michée, chapitre 2, chapitre 1, il existait, Michée 5 plutôt, il existait avant. Donc il est éternellement, il existe éternellement, Jésus-Christ. Depuis l'éternité, Jésus existe. Donc Marie a mis au monde l'homme Jésus. Donc l'homme Jésus a pris son commencement d'humain dans le ventre de Marie. Mais ce n'est pas le Dieu Jésus. Voilà. Lui, il existait toujours. Mais pour se faire homme, il s'est fait homme dans le ventre de Marie. C'est clair. Mais je vais vous donner un exemple. Donc, est-ce que si Jésus... Donc le fait que Jésus ait mis les pieds sur Israël, est-ce que ça veut dire qu'Israël est plus vieux que Jésus? Non. Jésus a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis.
Non, je comprends, voilà. Mais ça veut dire qu'on fait que ça veut dire qu'on doit aussi raisonner pour comprendre. Il faut qu'on raisonne en disant que Jésus est, quand il est homme, il est que homme. Quand il est Dieu, il est que Dieu. Et quand il est esprit, il est que esprit. Il n'est pas les trois en même temps.
Non, mais c'est simple. Même si Jésus Dieu était dans Marie, puisque Jésus même bébé était Dieu. Mais il est venu dans Marie, c'est pas Marie qui l'a produit. Ah, voilà. Il est descendu dans le ventre de Marie. Voilà.
En fait, il n'a rien à elle, quoi.
Ah, pas du tout. Ici, il y a eu communication, il y a eu travail avec le corps de Marie pour produire l'homme Jésus. Mais la puissance du Saint-Esprit est venue sur Marie. C'est pas Marie qui a produit d'elle-même. C'est la puissance de Jésus, de Dieu par le Saint-Esprit qui est venu dans le ventre de Marie pour produire l'homme Jésus.
Il a quelque chose de Marie?
J'ai pas compris.
Il a quelque chose de Marie?
Ah oui, mais pourquoi, comment il...
Il a quoi?
Mais puisque, comment il se nourrissait quand il était dans le ventre?
Oui, donc c'est que ça, mais il n'y a pas de
Je ne sais pas. Donc je préfère pas aller dans un territoire que la Bible n'explique pas. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il était nourri quand même par le sang de Marie. Quoi. Voilà.
Oui, quand tu dis que les catholiques, même s'ils lisent la Bible et qu'ils voient que non, c'est écrit ça, mais ils retiennent ce que le pape dit. Comment ça se passe? Parce que ce n'est pas le pape qui...
Il va voir son prêtre. Par exemple, quand tu discutes avec un catholique, tu le convaincs, première réaction, il va aller voir son prêtre. Et quand il va aller voir son prêtre va lui donner l'interprétation retenue par le catholicisme de ce qu'il a lu.
Donc, dès les commencements. Donc, il donne des ordres aux autres prêtres pour leur dire, voilà, il faut dire ça.
Oui, mais puisqu'ils font des séminaires, il faut une formation. Dans la formation, on leur apprend le droit canon. Le droit canon, donc, c'est ce qui est retenu par le mouvement qu'on doit accepter. C'est ça, le droit canon. Et dans le droit canon, on va leur expliquer, dans la théologie qu'ils vont faire, on va leur expliquer clairement l'utilité du pape et l'infaillibilité du pape. On va leur en parler. Voilà. Oui.
En fait, c'était juste pour poser une question par rapport à ce que la sœur Nelly demandait. Est-ce qu'elle voulait parler, quand elle disait est-ce qu'il a quelque chose de Marie, elle voulait parler d'ADN ou bien elle voulait parler de... C'est ça, c'est l'ADN que tu veux dire, hein, c'est ça?
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un lien quand même, quoi.
Pour en revenir à ce que disait Nancy, mais un catholique, même s'il lit la Bible, il va aller voir son prêtre, comme tu dis. Il sait lire comme son prêtre. Il est indiqué, tu n'appelleras personne père, tu ne feras pas de statut, tu ne t'agenouilleras pas devant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors comment il peut accepter que son prêtre lui dise quel que soit ce que le pape a dit, en fait, comment il peut accepter, par exemple, que Marie est mère de Dieu, alors qu'au commencement, il est dit que c'est Dieu qui a créé toute chose. On ne voit pas Marie au commencement de la Bible, de la Genèse. Comment il peut accepter les doctrines du pape dans la mesure où il est écrit clairement que tu ne feras pas de statue, que tu ne t'agenouilleras pas devant elle, que tu ne prieras pas les morts. Comment est-ce qu'on peut... En fait, moi, je crois que, quelque part, s'ils veulent accepter l'explication du pape, c'est qu'elle doit les arranger, quelque part.
Pas forcément. C'est qu'on doit comprendre qu'il y a, un ensemble de choses. Déjà, ta famille est dedans. Tu es dans une famille, tout le monde est catholique. Tu es dans un pays où ton école, par exemple, mon école là où j'étudiais, c'était les catholiques. Donc, il y a un certain nombre d'avantages liés au catholicisme. Et donc, tu auras tendance à vouloir te protéger et rester dans le...
Voilà,
que tu voudras te protéger. Mais c'est inconscient. Ce n'est pas forcément décidé comme ça. C'est inconscient. Et là, quand on présente autre chose, il faut que ça soit vraiment lourd. Et maintenant, pour nous, certaines vérités sont évidentes, mais ils ont des techniques. Il faut imaginer quelqu'un qui est habillé en toge avec des lunettes un peu propres là, et qui parle. Et c'est un ensemble qui crée un certain respect. Donc, ce qui fait que quand on vient... Par exemple, l'histoire des statues, quelle explication on leur donne ? On dit, mais ce n'est pas la statue que nous prions, mais ça nous permet, puisqu'on ne voit pas Dieu, de matérialiser quelque chose. Mais c'est ça que Connor demande. Et la personne qui parle, il parle avec douceur. Il n'est pas paniqué. Tu vois, parfois nous, on s'énerve. Mais eux, ils ne s'énervent pas. Ils sont tranquilles. Non, mon petit, ce n'est pas... Mais oui.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre, par exemple, quelqu'un qui dit, mais on ne va pas prier les morts, ils sont morts. Dans la Bible, il est écrit, Jésus dit lui-même, laissez les morts enterrer les morts. Donc, et puis, même, on dit que dans l'Ancien Testament, que... je ne sais plus...
Il vous dit, mais est-ce que tu crois que Dieu est bon? Voilà, oui. Mais pourquoi Dieu ne sauverait pas même quelqu'un qui est mort?
Mais parce qu'il est écrit qu'il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient
donc,
le jugement?
Donc là, tu parles de quelqu'un qui tient déjà qui beaucoup sur la Bible. Voilà. Mais on parle de quelqu'un qui tient aussi, qui a du respect pour celui qui lui parle. Qui est comme, comment dire, dans l'extase, dans l'admiration de celui qui lui parle. Et donc, il faut balancer tout ça. C'est pourquoi il faut prier. Parce que ce n'est pas... Juste parce que ce qui est écrit est clair que cela suffit. Il faut vraiment la puissance du Saint-Esprit pour toucher, convaincre. Parce qu'il y a un ensemble qui est là où la personne qui te parle, tu le respectes. Par exemple, c'est un oncle qui a été toujours félicité dans la famille. Donc, et c'est lui qui t'explique ça. Donc, tu es déjà, voilé dès le départ.
Mais nous, on est tous voilés dès le départ. C'est vrai que si on est arrivé au Seigneur, c'est sa grâce. Mais
voilà,
aussi,
c'est ça.
Il y a le fait de vouloir aussi dans son cœur. Il y a une disposition.
L'amour de la vérité. Oui.
Quand on a revu le témoignage de l'ancien prêtre, le frère qui s'est converti dernièrement, il était lui-même, il était dérangé par ce qu'on lui enseignait dans son institut. Là, il était, il trouvait pas la paix, il savait pas où chercher. Il cherchait Dieu. Lui-même,
c'est son parcours. Mais il faut reconnaître qu'au milieu de nous, certains d'entre nous, au début, ils ont quand même défendu le catholicisme quand on leur parlait. Voilà. C'est pas... Donc, chacun a son parcours. Donc, et y en a qui ont un parcours difficile. Et donc, il faut du temps pour que... Et l'action du Saint-Esprit pour qu'il reconnaisse qu'il y a problème. Parce que tu lui demandes de renier sa famille en quelque sorte. Tu lui demandes de tout changer. Et c'est valable pour le changement dans toutes les religions. C'est ce qui nous amène beaucoup plus à prier quand on veut parler à quelqu'un qui est dans une autre religion et dire vraiment les choses qu'il faut au lieu d'insister sur le raisonnement intelligent. Parce que selon l'intelligence, c'est tellement simple ce qui est écrit, quoi. Mais il faut comprendre que c'est des choses qui sont liées à des puissances spirituelles et liées aussi à la nature de la personne, au cœur, comme tu viens de le dire, hein, liées aux attentes mauvaises parfois des uns et des autres. Mais tout le monde est pécheur, donc il y a forcément quelque part des attentes qui ne sont pas bonnes. Et donc il y a tout un mélange. Donc on a besoin de discerner tout ça, de prier et de parler au bon moment, de dire la chose au bon moment et le Seigneur agira. Mais ce n'est pas aussi simple comme ça parce que l'intelligence nous montre quoi. Voilà. C'est, aujourd'hui, notre intelligence nous aide, nous, vous et moi, à rester dans la vérité en disant « Mais attends, c'est clair. » Voilà. Maintenant qu'on est déjà libéré, on peut vraiment, avec notre cerveau, voir clairement ce qui est écrit quoi, et s'accrocher à ça. Mais pour ces gens-là qui sont d'une certaine manière voilés, ben, ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit pour s'affranchir de tout ça. Quoi. Oui.
C'était pour un petit commentaire pour ce que Nelly a demandé. Jésus est quand même né juif, donc il y a de l'ADN là-dedans. T'sais, il n'est pas né chinois, il n'est pas né africain, il n'est pas venu... Tu comprends? Il n'est pas né italien, il est né juif. Donc, c'est de l'ADN, ça. Voilà, tu sais, le nez et tout le reste.
Moi, c'est le terme ADN qui me faisait fuir. Mais sinon, je vois mal que Marie n'ait aucune action sur le bébé. Dans ce cas, Dieu aurait fait naître Jésus d'une manière différente. Si Dieu est passé par Marie, forcément, il voulait un lien avec ce peuple-là, un lien avec l'humain. Je crois que Marie a participé à la production de Jésus homme. Voilà.
Puis quand on... Tu sais, l'ADN, ça dit quelle couleur seront tes cheveux, quelle texture, etc. Tu sais, on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi Israël, mais c'est ce qu'il a choisi. Et puis, il n'aurait pas fait que quelqu'un qui est d'Israël ne représente pas Israël.
Oui, pour moi, si Marie a participé, forcément, il y a quelque chose de ce genre-là dedans. Mais je ne veux pas donner des affirmations trop précises.
On ne peut pas être trop précis, mais on imagine qu'on ne va pas trouver un petit Chinois qui est sorti du ventre de...
Non, mais c'est pourquoi je considère que Marie a participé. Parce que je vois mal que Dieu fasse passer par Marie sans que Marie ne participe.
On a un problème à parler ADN pour Jésus ou quoi?
Parce qu'on n'a pas vu ça. C'est justement mon problème.
Mais c'est un être humain quand même, tu sais, je veux dire.
Oui, mais comme je n'ai pas vu son ADN, je préfère dire... C'est que ce qui est visible, que oui, il a reçu des choses de Marie, de sorte qu'il est juif, il était juif. Voilà.
Il était humain,
voilà.
Ben, un humain...
Mais Dieu peut créer l'humain sans passer par quelqu'un, parce qu'il a créé Adam.
Oui, mais s'il est humain, il y a deux bras, deux jambes, il y a des choses microscopiques. Mais
Adam aussi avait deux bras et deux jambes. C'est pourquoi, moi, voilà, donc je crois que si Dieu ne voulait pas qu'il prenne les caractères de Marie... des choses liées à Marie, donc liées au peuple juif, il le ferait naître comme Adam. Mais s'il l'a fait naître par Marie, c'est qu'il voulait quand même qu'il prenne des choses liées à l'humain que nous sommes aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, pas un autre humain qu'il créerait comme ça. Voilà, il voulait... Donc je pense qu'il avait des choses de Marie en lui, forcément des choses des juifs, et ainsi de suite.
Puis on dirait, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'il y a certains endroits où ce qu'on lit dans la Bible où ce que on veut le faire savoir que Jésus était juif.
Ah oui? Ben, si on est d'accord avec ça?
C'est comme si on veut que ce n'est pas juste spirituellement judaïsant là, ou quelque chose comme ça. Là, c'était physiquement et tout le reste.
Oui, 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 oui.
Il allait aux fêtes, il y avait la culture, il y avait tout de juif. Donc.
Mais il pouvait créer ça aussi sans passer par Marie.
Mais
moi, j'insiste là-dessus. Donc, s'il est passé par Marie, c'est qu'il voulait que notre nature aujourd'hui fasse partie de la nature de Jésus. Mm-hmm. Voilà. Parce que Dieu peut créer un homme, s'il le veut. Parce qu'il a créé bien Adam. Mm-hmm. Voilà. Donc, il voulait qu'il y ait participation de notre nature à la nature de Jésus pour qu'il nous sauve totalement. C'est ça qui fait que quand il a été crucifié, nous étions en lui. Quoi. Donc, il y avait ça. Voilà. Donc, je crois qu'on peut dire qu'il avait des choses de Marie. Maintenant, chacun dira le mot qu'il veut, ADN ou autre, mais oui, je crois oui. Oui.
Oui, donc l'implication de la généalogie là-dedans relève sa force, quoi, son importance.
Ah oui, ça a son importance.
Donc c'est pour ça que même les généalogies qu'il y a dans la Bible, c'est une fois on en a parlé pendant une étude biblique, et tu nous disais que même les généalogies ont leur importance.
On
se demande pourquoi c'est écrit, mais en fait ça a son importance.
Voilà, notamment pour Jésus, la première importance c'est de montrer qu'il est vraiment descendant de David. Et l'autre important, parce que vous allez voir deux généalogies, chez Matthieu et chez Luc. Matthieu était un jeune juif, il voulait montrer aux juifs que Jésus est le Messie, descendant de David comme attendu. Luc est un homme grec, il voulait montrer à tous les humains que Jésus est le descendant d'Adam, venu achever la nature adamique par la crucifixion à la croix et produire un homme nouveau. Voilà. Donc c'est important ces généalogies-là.
Excusez-moi. Ben, en fait, je suis un peu choquée quand vous dites à participer, parce que même si Dieu a choisi Marie pour enfanter Jésus par l'Esprit de Dieu, je suis d'accord, mais elle n'a pas participé, elle a mis au monde, enfin je veux dire, elle a porté cet enfant dans son cœur, quoi, enfin dans son corps aussi, quoi.
Donc, oui, mais l'enfant se nourrissait de Marie.
Oui, mais je veux dire.
C'est de cette participation que je parle.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, ça a été quand même son enfant, ça a été son fils. Et après, bon, le mot participer ou choisi, peu importe, mais quand on dit participer, ça fait mal, quoi. Parce que c'est quand même Dieu qui a choisi cette femme pour que Jésus naisse dans son ventre.
Oui, mais par la suite, dès que Jésus a été déposé dans le ventre de Marie, il y a eu une connexion entre le corps de Marie et le corps de Jésus.
Bah, c'est obligé.
Il y avait quand même un cordon ombilical.
Bah oui, c'est obligé.
Voilà.
Donc ça, non, je disais ça parce que ça me fait un peu mal, quoi. Quand on porte un enfant, c'est pas rien, quoi. C'est pas, on participe pas comme
pour,
ça.
Pour vous participer, c'est diminuer l'importance.
Ouais, oui.
Ah non, c'est pas pour diminuer l'importance. Au contraire. Dans notre discussion, quand on a utilisé participer, c'est pour dire que Marie avait son importance. Ah, parce que sinon, ça ne serait pas passé par elle.
D'accord. Et j'ai une deuxième question. En fait, les catholiques, ils ont vraiment une adoration pour Marie. Et je connais quelqu'un de catholique qui aime vraiment le Seigneur, qui est bien dans sa foi. Mais
qui est bien dans sa foi, qui adore Marie.
Attendez, monsieur, oui. Attendez, je vous dis ce que je vous pose une question, quoi.
Ah, d'accord.
Et en fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Comment on peut recevoir le Seigneur dans son cœur et avoir une telle adoration pour Marie, puisque...
Donc, on n'a pas reçu le Seigneur. Mais ça fait partie des gens de la division, de la DGSE. On m'a parlé de ça à notre voyage par un frère. La division... des gens sincèrement dans l'erreur. Donc, c'est ça fait partie de ces gens-là. Donc, ils sont sincèrement dans l'erreur, des GSE.
Oui, mais voilà. Il y en a qui prient le Seigneur avec tout leur cœur.
Oui, oui, sincèrement dans l'erreur. Je sais pas. Oui, oui.
Bon, voilà.
Mais c'est ça, donc... Oui, oui.
Oui, je voulais vous donner un petit témoignage pour moi personnellement, parce que j'étais catholique, bien sûr. Et alors, au départ, c'était mon gros problème, parce que je priais beaucoup Marie, Sainte Thérèse, toutes les deux, vraiment, ça faisait partie de beaucoup plus que Jésus. Ça, c'est évident. Et alors, j'ai fait des recherches, bien sûr, j'étais voir des prêtres, bien sûr, ça n'a pas collé, c'était évident. Et ça me turlupinait vraiment beaucoup. Et un jour, en prenant quelque chose dans un placard, j'ai entendu, quand tu pries la Vierge et les saints, tu ne me pries pas. Je vous assure qu'à partir de 7 secondes, tout a été terminé.
Voilà.
Ça, je trouve que c'est un beau témoignage. Je l'ai donné déjà plusieurs fois. Alors, une fois, je l'avais donné à une infirmière. Elle me dit, mais c'est sous quel médicament pour avoir ça? Enfin, vraiment des choses inouïes. Mais voilà. Vraiment que le Saint-Esprit fasse...
Donc, la voix a dit, quand tu pries la Vierge, tu ne me... Prie pas.
C'est ça, quand tu pries la Vierge et les saints, tu
ne me pries pas. Voilà, donc les gens qui semblent sincères en faisant ça, ils font partie de la DGSE. Voilà.
Peut-être, mais enfin, voilà. Avec une telle parole, pour moi, en une seconde, tout a été terminé. Oui.
Amen. Voilà. Ok. Donc, oui.
Et je devais savoir, en France, le jeudi, c'est le jour de l'Assomption.
Ah, aujourd'hui?
Jeudi.
Ah, d'accord. C'est, heureusement, on en parle, donc, vas-y, oui.
Mais l'église des catholiques, on fête tous les jours de ça, mais les autres assemblées ne fêtent pas.
Jeudi, le jour de, c'est à quoi? Assomption ou Ascension? Ascension. Ça, c'est l'ascension de Jésus. Voilà, ok, d'accord. Pourquoi on ne fête pas ça?
Oui.
Mais pourquoi on doit fêter ça, alors? Non, donc, on ne nous demande pas de fêter ça le jour que Jésus est monté. Donc, c'est pourquoi, bon. Celui qui veut fêter ça, il fête, hein? On est libre. Dans ta maison, tu nous invites, on vient. Mais non, mais oui, on est libre. Mais, donc, c'est, chacun fait selon sa liberté. Celui qui juge un jour important... D'autres, voilà. Donc, on est libre de faire ce qu'on est connu de faire. Nous, on sait que Jésus est ressuscité. C'est clair qu'il est monté au ciel. Maintenant, si quelqu'un veut, ce jour-là, spécialement, lui rendre gloire pour cela, il le fait. Il n'y a pas de problème. Okay. Voilà. Mais le problème, c'est qu'après, il y a un autre dogme. C'est l'Assomption. Donc, il considère que Marie aussi est montée. Donc, tous ces mélanges-là, c'est pourquoi nous... Nous sommes prudents de faire des fêtes parce qu'après, on peut mélanger tout. Voilà. Donc, c'est sans contredire les vérités, nous sommes prudents par rapport à faire de telles choses qui pourraient créer des amalgames. Oui.
Ce week-end, j'ai eu vraiment une discussion vive encore avec quelqu'un par rapport au catholicisme. Et c'est une personne qui est tiraillée par le catholicisme et qui vient à Jésus. Et donc, je lui dis, parce que en fait, elle a vu deux pasteurs, elle a fait deux églises, sa deuxième assemblée évangélique, comme elle dit. Son pasteur lui a dit que comme son mari était catholique et qu'il lui disait, il a menacé de ne plus la laisser aller à l'église évangélique, et ben, il fallait qu'elle vienne en compromis à l'église catholique. Et deux pasteurs lui ont dit ça, donc elle m'a demandé mon avis. Et moi, j'ai dit, ben non, c'est du compromis. Je veux dire, c'est un terrain dangereux dans lequel tu te mets. Donc là, elle s'est mise en colère et elle m'a dit, mais vous, vous jugez tout le temps. Comment vous êtes tout le temps, vous avez tout le temps raison. Et c'est pas évident parce que...
Oui, mais pourquoi la personne vous a demandé? Deux pasteurs l'ont déjà encouragée dans le mal. Elle n'avait qu'à s'en contenter. C'est que son cœur est perturbé. Parce que si déjà deux pasteurs t'encouragent, normalement, elle devait se dire, bon, c'est bon, je peux continuer. Mais son cœur est perturbé. Donc, elle connaît plus ou moins la vérité, mais elle ne veut pas l'entendre. C'est ça le problème. Comme certaines personnes peuvent savoir que, voilà, une telle personne, voilà, mon mari ou ma femme ne m'aime plus ou ne m'aime pas, mais on ne veut pas entendre ça clairement. Voilà, c'est ce qui se passe là. Donc, elle connaît plus ou moins la vérité, mais elle ne veut pas l'entendre.
Donc,
c'est difficile. Hein.
C'est difficile parce que quand on dit, bah oui, bah alors vos pasteurs, mais alors vous dites que les catholiques vont en enfer, mais alors vous, c'est pareil. Il faut voir le nombre de personnes qui suivent la vérité. Ben, j'ai dit, je suis d'accord avec toi. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'après, elle me dit que Dieu lui parle dans l'Église catholique. Alors,
non, c'est un autre esprit.
C'est trop bizarre. Quoi.
Non, c'est un autre esprit. Hein, c'est un autre esprit. Mais les voyants aussi, ils reçoivent, ils entendent des voix. Hein, donc tout, mais d'autres esprits aussi parlent. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Hein.
Non, mais si les pasteurs déjà lui disent des choses comme ça...
Oui, mais
ça,
c'est pourquoi nous faisons ces études bibliques, pour prévenir chacun. Attention, le catholicisme est très fort. Il finit par avaler même les gens qui lui sont opposés. Donc aujourd'hui, ces pasteurs-là, ils disent ça, va dans le compromis. C'est parce qu'ils se sont fait avaler, d'une certaine manière, par la puissance subtile et maligne du catholicisme. Qui a réussi, vous savez, le protestantisme a commencé par Luther. Et Luther disait que le pape, c'est l'antichrist. Et aujourd'hui, les descendants de Luther sont avalés par le catholicisme. Pourtant, le fondateur disait que le pape, c'est l'antichrist. C'est quelqu'un de l'enfer. Donc, c'est pour dire que celui qui n'est pas vigilant se fera avaler par le catholicisme. Avec, bien sûr, d'une manière indirecte. Ça vient toujours d'une manière directe. Vous vous exagérez, vous jugez les gens. Non, on ne juge pas les gens. On dit la vérité.
Alors, je dis l'homme spirituel juge de tout, mais elle me dit, mais voilà. Pourquoi toi, tu te crois supérieur à moi? Parce qu'il y a marqué dans la Bible qu'il faut considérer l'autre supérieur à toi. Enfin,
mais non, mais on dire la vérité, c'est se croire supérieur. Pourquoi?
Non, mais elle avait l'impression que j'étais... que c'était,
c'est elle qui a cette impression-là. Mais dire la vérité, ce n'est pas se croire supérieur. On lit ce qui est écrit, 2 Corinthiens 6, 14. Nous allons lire ça, 2 Corinthiens 6, 14. Donc, on ne se croit pas supérieur. On lit ce qui est écrit. Hein. Si, par exemple, tu dis à quelqu'un, j'ai raté mon omelette, et que la personne t'explique comment mieux faire, donc, est-ce qu'elle est supérieure? Non, mais elle te dit la formule qui marche, c'est tout. 2 Corinthiens 6, 14. Il est écrit ceci, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord entre Christ et Bélial, quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant, quel contrat d'alliance avec le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Voilà, le Seigneur interdit le mélange disparate avec ce qui est impur. Donc on ne fait que lire ce qui est écrit. Donc quelqu'un à qui le pasteur dit tu dois accompagner ton mari dans le temple catholique, donc on l'envoie à la mort. Là où il y a les idoles, là où il y a le mensonge, là où on dit que, vous savez, la messe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie à nouveau Jésus. Or, Hébreux 10, 14, nous allons lire Hébreux 10, 14. Donc, il y a plein de dogmes catholiques qui sont antibibliques, parce que ce n'est pas notre... ce n'est pas l'objet de notre étude biblique, mais si on voulait citer tout ça, il y en a beaucoup. Hébreux 10, 14 nous dit ceci, « Car... par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Ça commence au verset 12, quoi. « Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. » Donc, un seul sacrifice définitif. Voilà. Donc Or, la messe, ça veut dire que chaque jour, Jésus-Christ, on le crucifie à nouveau. C'est ce que ça veut dire messe. Messe, ça veut dire sacrifice. Voilà, donc on ne peut pas dire à quelqu'un d'aller dans un tel endroit parce qu'il doit suivre son mari. Non, ça c'est péché. Il est écrit dans Actes 5, 29 et Actes 4, 19, entre Dieu et les hommes, vaut mieux obéir à Dieu. C'est clair. Voilà, donc c'est... les gens attaqueront toujours, vous jugez. Non. Moi, je réponds, nous lisons la Bible. Est-ce que tu es d'accord que la Bible, c'est la parole de Dieu? Oui. Alors, je lis la Bible. Un point, c'est tout. Je ne me considère pas comme supérieur à toi parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Voilà. C'est des faux fouillants. C'est des échappatoires. Oui.
Mais je veux dire, le pape, il ne lit pas la Bible.
Le pape fait quoi?
Il ne lit pas la Bible.
Il lit la Bible?
Non, il ne lit pas. Parce que...
Lui, le pape, il connaît la Bible, plus ou moins.
Mais pourquoi quand, par exemple, je prends un exemple, quand Galilée il a découvert que la Terre était ronde, pourquoi il l'a mis en prison alors que dans Ésaïe 40, 22, il est dit que la Terre était ronde?
C'était qui connaît Ésaïe 40, 22?
Bah, que Dieu il est assis au-dessus du trône du cercle de la Terre.
Oui, mais le Galilée ne s'est pas contenté de dire cela. Galilée a plus dit que la Terre tournait autour du soleil. C'est ce qui a gêné ces gens-là parce que Josué avait dit « le soleil s'arrêta ». Ah voilà, c'est ce qui les a gênés. Okay. Mais toutefois, ils n'avaient pas besoin de tuer Galilée pour ça, quoi, voilà. Ça vous montre, est-ce que c'est des chrétiens vraiment? Parce que comment un chrétien peut tuer quelqu'un parce que la personne dit quelque chose qui ne se sent pas d'accord? Ce n'est pas des chrétiens, c'est des satanistes. C'est ça la réalité. Donc maintenant, on va vouloir vous faire croire que le catholicisme, c'est des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens, parce que leurs chefs ont toujours tué des gens. Ils ont tué des juifs. Ils ont tué des vrais chrétiens pendant des siècles. Et aujourd'hui, on veut vous faire croire que cette organisation-là, c'est des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Donc, c'est la stratégie de prendre les gens petit à petit sous des apparences. Vous savez, vous connaissez Caritas, non ? Une organisation catholique qui aide les gens, qui aide les pauvres, secours catholique, tu vas, tu prends quelques fauteuils là-bas, et puis... Non ! C'est du grand banditisme, le catholicisme. Le jour où ils m'attraperont, ces gens-là. Oui.
Pour comprendre le mot catholique, ça vient d'où?
Catholique, ça veut dire universel.
Universel.
Donc, ils considèrent que c'est la seule religion qu'il faut suivre.
D'accord.
Maintenant, tant qu'ils avaient la force physique, force militaire, pour s'imposer, ils faisaient ça. Donc, ils utilisaient le côté que côté universel, il faut tout le monde dans la mère Église. Ils appellent ça la Sainte Mère Église. Mm-hmm. Maintenant, quand ils ont perdu, donc aujourd'hui les pays sont dirigés différemment, ils commencent à faire ce qu'on appelle l'œcuménisme. Récupérer les gens, voilà, par la séduction. Tant qu'ils avaient la force totale, ça se faisait par la force. Dès qu'ils ont perdu la force totale, maintenant ils récupèrent par la séduction, par l'œcuménisme, par la logique des points communs. Et c'est une grave séduction, une grave erreur.
Pasteur, je voulais savoir, tous les dirigeants catholiques donc, qui sont dans la sorcellerie?
Pas tous. Ceux qui sont au sommet, oui.
Mais tous les adeptes, alors, tous ceux qui sont
catholiques? Ils sont bernés, hein, comme beaucoup sont bernés par les Johnny Hallyday et consorts.
Donc ils sont dans une sorcellerie inconsciente?
Non, pas forcément. Pas, ils sont bernés, c'est tout. Ils sont bernés. Oui, Trésor.
Oui, parce que la plupart des catholiques accusent beaucoup plus des chefs d'État, des gens qui sont dans la franc-maçonnerie et tout. Mais ces mêmes personnes-là, quand ils vont dans les églises catholiques, ils sont vraiment à l'aise et que ce soit le pape, les évêques les reçoivent, ils travaillent ensemble. Donc, même en ça aussi, ils ne peuvent pas se poser des questions.
Les publics catholiques se posaient des questions.
Oui,
Non, il y a un envoûtement général. Mais il suffit. Hier, on a vu une procession catholique dans Notre-Dame de Paris. Il y a une certaine solennité. Et beaucoup de gens sont envoûtés par ça, quoi. Ils sont envoûtés par ça et il faut prier et prêcher la vérité, quoi.
Pasteur, je voulais savoir si une personne qui a été enseignée par rapport à les trucs des catholiques là, et que cette personne-là va aller chanter dans une salle qu'on appelle église catholique.
Chanter pourquoi?
Suite à un événement ou soit quelque chose.
Organisé par le catholicisme?
Soit organisé par eux-mêmes, mais.
Parce qu'il y a quand même certaines chorales qui s'autorisent, dans la logique acoustique, à chanter dans des temples catholiques, parfois ouais. Des temples morts, où il n'y a plus d'activité catholique. Bon, moi, je ne peux pas être catégorique là-dessus pour dire que c'est des gens qui font un compromis. Voilà, parce que leur logique qui disent on va parce que c'est une bonne salle, de toute façon, il n'y a plus d'activité là-bas. Voilà. Il y a aussi des organisations qui héritent, qui achètent de telles salles pour en faire des salles de vrais cultes.
Mais dans voilà. La salle, il y a quand même des croix, il y a quand même des maris, il y a des choses comme ça.
C'est des statues. Tout. Non, mais voilà. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon.
Mais maintenant, la personne qui a chanté là-dedans, est-ce que c'est le compromis ou soit c'est
un péché? Oui, mais c'est un compromis. Hein.
Oui, c'est un compromis, mais est-ce que si c'est un péché attaché par rapport à ça, parce qu'il est conscient que c'est, voilà, c'est une salle catholique et tout, tout ça, mais lui, il va quand même chanter.
Oui, donc c'est un péché dont qu'il doit confesser. Hein. C'est un péché. Comme il est conscient qu'il va le faire quand même. Donc c'est un compromis qu'il doit confesser. Oui, oui. Qui a le micro ? Voilà.
Oui, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure des dogmes. Vous avez cité, par exemple, le dogme de Marie. Mais il y a un dogme qui est vraiment essentiel, et je n'ai jamais compris d'où il vient quand même, le dogme sur le Saint-Sacrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près, parce que moi je suis dans une famille où tout le monde est là, quand je leur parle actuellement de Jésus, ben, ils me disent que, mais oui, mais justement, Jésus se trouve dans le Saint-Sacrement. J'ai dit non, Jésus n'est pas dans le Saint-Sacrement. Jésus, il vit en chacun de nous.
Non, pas en chacun de nous. Hein. Il vit dans chaque chrétien.
Oui, dans chaque chrétien, voilà. C'est ce que je veux dire. Et ils disent, non, 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 nous, on va nous agenouiller devant le Saint-Sacrement. C'est là-dedans qu'il y a Jésus dans le tabernacle. Ben,
je ne connais pas exactement c'est quoi le Saint-Sacrement. Hein. C'est toi qui peux nous expliquer ça, puisqu'ils vont s'agenouiller devant.
Dans les chapelles, il y a un endroit où il y a une petite lampe, une ampoule, enfin une lumière.
Oui.
Et c'est fait comme un coffre, voilà. Et dedans, c'est une grande hostie qu'on a placée dedans, dans ce
une
coffre.
Une hostie, c'est un pain aplati. Hein,
voilà. Et c'est ça qu'on ressort certains jours et les fidèles s'agenouillent là.
Devant du pain.
Voilà, c'est ça. Okay, et donc, il peut passer toute une journée là à prier. Tout, c'est ça le Saint-Sacrement.
Voilà, donc vous-même, vous me voyez là, on s'agenouille devant un morceau de pain. Voilà, donc c'est tout est dit quoi, tout est dit. Hein. Et donc maintenant, nous, on rigole, mais il y a des gens qui sont pris vraiment par ça. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas suivre les blâmes du genre. Vous exagérez. Non, on n'exagère pas. On dit la vérité, c'est la vérité qui sauve. Mais non, on ne va pas faire ça pour embêter les gens, pour dire qu'on connaît. Non, on va faire ça dans le souci de sauver. Dans le souci que chacun ait à disposition et la vérité et le mensonge et qu'ils choisissent. Il ne faut pas que les gens un jour disent « Mais personne ne nous avait reproché. » Voilà, il faut qu'on dise tout et que les gens choisissent. Oui.
On connaît les bâtiments reliés à une église, la salle paroissiale, des fois le sol, des affaires comme ça. Ils font toutes sortes de repas, toutes sortes de choses. Est-ce que tu trouves que c'est un péché d'aller, s'il y a une activité dans une de ces salles-là?
Pour faire quoi?
Des repas.
Des rapports.
Des repas.
Ah, des repas.
Oui.
Dans quel cadre?
Le cadre où ce qu'il y a des gens qui vont t'inviter pour un repas. Parce
oui,
qu'ils
moi, je pense que oui.
Et puis ils vont dire, c'est juste un repas, bon sens.
Moi, je pense que oui, ça va. Oui, mais si ce n'est qu'un repas dans une salle qui appartient aux catholiques, moi, je ne vois pas de problème, puisque là, on va bien dans les salles d'école. Hein, on va bien
C'est parce que des fois, la salle peut être sous l'église.
Sous
l'église.
Voilà.
Et puis, c'est pas loin d'une crypte et puis des affaires du genre. Là, tu sais.
Bon, s'il y a des idoles dans la salle, moi, je dirais, bon,
oui, mais si tu ne sais pas avant, tu sais, je veux dire, tu y vas par gentillesse parce que les gens catholiques qui disent, ben, garde.
Oui, mais quand tu entres, tu vois tout ça, tu dis, mais excusez-moi, je ne peux pas. Oui, oui.
C'était invité à un repas.
Oui, et que j'arrive. Nous, on est partis en Israël. On nous a emmenés dans un hôtel, il y avait des bouddhas. On a pris tous les bouddhas, placards, pas enfermés. Donc,
mais ils sont toujours là, mais ils sont dans
le placard. Mais ils sont quand même enfermés, puisqu'on n'allait pas dormir sur dehors, hein, à la belle étoile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous les bouddhas, placards, enfermés. Et là, on savait bien que les gens qui nettoient le matin vont venir voir tout ça. Ah ben, on attendait qu'ils viennent nous voir pour qu'on leur dise, mais vous n'avez pas honte, vous, en Israël, mettre ces trucs-là. Donc, on attendait, ils ne sont pas venus. Voilà.
Ben, C'est comme délicat parce que disons que du monde que tu connais bien puis t'invite à un repas, toi tu sais pas là. Ça donne, t'arrives, c'est en dessous de l'église.
Oui, mais Dieu t'inspirera ça... ce qu'il faut faire, soit t'en aller, soit prier. Donc moi je dis, donc ça viendra. Donc on ne peut pas donner un comportement uniforme aujourd'hui quoi. Donc je crois que c'est un problème, mais après que Dieu nous inspire, quelle réaction avoir en ce moment-là. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont capables, ils vont, ils cassent les choses d'autrui, sauf peut-être que des idoles. Non, il ne faut pas faire ça. Voilà. Oui.
Ouais, je voulais dire, par rapport à ce que tu as dit, parce que j'ai rigolé, quand on était parti en Allemagne avec Stéphane, on était, donc mon frère, il avait payé une chambre d'hôte, et dans la chambre, c'était chambre cuisine, salon et tout, il y avait partout des croix, des statues et tout. On a fait pareil, on a tout enlevé, on a mis dans les tiroirs, dans les placards, on a fermé. Et puis, quand on voulait rentrer, on a remis à place, quoi.
Ouais, ouais.
On a fait comme ça, mais on avait prié, on avait brisé, quoi. Parce qu'ils ont... là-bas, c'est comme un système dans leur maison, ils ont toujours des hiboux partout.
Donc, même les hiboux dans les tiroirs, quoi.
Oui, on a tout.
C'est beaucoup plus prudent, oui, ah, oui. Oui,
oui. Oui, un des aspects qui a été évoqué tout à l'heure, mais qui est la constante dans l'Église catholique, c'est la matérialisation du divin. C'est pourquoi si on revient à ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, en fait, c'est une hostie qui a été consacrée et qui est mise dans le tabernacle. Le tabernacle fait des...
Selon eux, hein,
ouais. Fait, oui, mais c'est dans le tabernacle, donc ça c'est la référence à la Bible, selon eux, que Dieu réside. Et c'est cette hostie consacrée qu'on appellera le Saint-Sacrement et qu'on va balader au cours des processions où tout le monde s'agenouille quand il voit cette espèce de soleil au centre de laquelle il y a une hostie qui est censée représenter le corps du Christ. Ah. C'est ce que je dis, la matérialisation du divin. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque fois qu'un catholique s'approche de la Sainte Cène, on pourrait dire ça comme ça, eh bien, quand le prêtre lui met l'hostie sur la langue, il dit « Je te donne le corps du Christ ». Il le dit.
Oui, oui.
Voilà. Donc,
cannibalisme.
On est tout ça, alors que je veux dire, c'est la matérialisation du divin. C'est tout à fait ça.
Oui, mais ils disent même, quand ils prient, ils disent « Fais que ce pain devienne le corps du Christ ». Ce qui fait que les gens mangent la chair physique. Voilà. Donc, c'est du cannibalisme. Mais tout le monde est là à suivre. Et on veut nous empêcher de dire la vérité. Non, on doit dire la vérité pour sauver les gens. C'est très, très important. Le catholicisme est très, très, très subtil. C'est le... Au jour d'aujourd'hui, c'est l'organisation mondiale la plus vieille. Donc, posez-vous des questions. Si elle a tenu pendant toutes ces années, ça veut dire que c'est du costaud, c'est du lourd. Posez-vous la question, si les descendants de Luther ont faibli jusqu'aujourd'hui à être repris par les catholiques, posez-vous la question. Aujourd'hui, les descendants de Wesley, pareil, Wesley aussi était contre le catholicisme, mais les descendants de Wesley, les méthodistes, sont repris par les catholiques aussi. Donc posez-vous des questions. Quand vous regardez l'islam, moi j'ai vécu dans un pays musulman, l'islam ressemble au catholicisme. Je vais vous donner quelques aspects rapides. Le purgatoire, tel que vous connaissez dans le catholicisme, ça existe aussi dans l'islam. La forme des bâtiments, c'est la même chose avec minaret, tout ça. Les pèlerinages, vous connaissez peut-être que le pèlerinage de la Mecque, mais il y en a beaucoup dans l'islam. Il n'y a pas que le pèlerinage de la Mecque, il y en a beaucoup. Comme dans le catholicisme, autour des tombes toujours, même chose. Le côté guerrier, c'est le catholicisme qui a commencé en tuant les gens qui s'opposaient. Et donc, l'islam suit la même voie. Et ainsi de suite, il y a plusieurs ressemblances qui montrent que toutes ces organisations ont la même source, le catholicisme, tour de Babel, et c'est le diable qui gère tout ça. pour empêcher les gens d'aller au ciel. Oui.
Je voulais savoir, pasteur, d'où vient le purgatoire? Ça vient d'où, ça?
Mais c'est leur principe du diable.
Oui, mais est-ce qu'ils se basent sur quelque chose pour dire ça aux gens? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Non, non. Ils se basent sur... Ils utilisent l'intelligence humaine. Ils te disent, mais Dieu est bon. Il ne va pas vouloir que les gens aient un enfer. Donc, on peut rattraper. Donc, il n'y a aucun verset biblique qui les aide à dire cela. Maintenant, certains ont prétendu qu'ils utilisaient Maccabée. Mais les livres qu'on appelle apocryphes, il y a un livre intitulé Maccabée, et dans ce livre-là, il y a un homme qui a vu, un soldat qui a vu d'autres morts, et à côté d'eux, il y avait des téraphimes, des statuettes. Or, en Israël, les statues étaient interdites, l'idolâtrie était interdite, et cet homme-là a prié pour les morts, en disant, peut-être que Dieu va les sauver, mais est-ce que... C'est cet homme-là qui a eu ce comportement, ce n'est pas un ordre de Dieu, ce n'est pas un système divin, quoi.
Alors, moi,
donc, ils n'ont qu'un verset pour...
D'accord. Moi, quand j'en parle avec les catholiques de le purgatoire, en fait, je leur dis, dans la Bible, il est écrit qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois, après vient quoi, le jugement dernier. Est-ce que c'est un verset valable pour...
Oui, oui, Hébreux 9, 27, oui, c'est valable. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas non plus de purgatoire. Donc, on meurt, le jugement est immédiat. Voilà. C'est ça, quoi. Oui.
Pour répondre à la sœur, par rapport au purgatoire, en fait, ça a été inventé parce qu'il y avait un pape, je crois que c'est en 1200, 1300, qui avait besoin d'argent. Et donc, en fait, pour construire... un palais.
La basilique Saint-Pierre.
Ouais, c'est ça, c'est la basilique Saint-Pierre. Et donc, du coup, il faisait un peu comme des chèques, c'est-à-dire.
Les indulgences.
Les
ça
indulgences,
s'appelle.
C'est ça. C'est-à-dire que je donne tant. Alors, je ne sais pas, c'était en écus, certainement, à l'époque. Et en échange, tu vas rester 5-10 ans, dans le plus, dans le purgatoire. Comme ça, tu vas être dans un lieu.
Là, il faut qu'on explique c'est quoi le purgatoire. Donc, le purgatoire, c'est un lieu où. Tu vas souffrir pour payer le mal que tu as commis sur terre. Maintenant, quand tu as souffert suffisamment, tu as tout payé. Maintenant, si tu es destiné à aller au ciel, tu vas au ciel. Si malgré tout, tu as échoué quand même, tu pars en enfer. Voilà. Maintenant, le catholicisme, par les messes et par les indulgences, messes de requiem et des indulgences, puisque les messes de requiem sont payées, hein, on paye. Donc, par les messes des requiem et les indulgences, veut diminuer pour les morts le temps d'attente dans la galère au purgatoire. Et donc, les gens qui sont vivants payent pour que leur mort n'ait pas beaucoup de temps au purgatoire. Mais le purgatoire n'est pas lié qu'à la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, ça a été le sommet. Ça veut dire qu'ils avaient tellement besoin d'argent qu'eux-mêmes, ils allaient voir les gens. Allez, tu payes. On te fait une facture, tu peux pécher pendant 3 ans, c'est pardonné. Ça s'appelle les indulgences. Tu payes. Là, ils allaient chercher les gens. Mais ça se faisait déjà bien avant, mais d'une manière discrète. Mais c'est pour la construction de la basilique Saint-Pierre qu'ils avaient tellement besoin d'argent qu'ils ont envoyé les prêtres se promener chez les gens et demander l'argent en échange de moins de temps au purgatoire et en échange aussi d'un certain pardon. Ça s'appelle les indulgences. Donc, ça te permet... le jour où tu mourras, de faire moins de temps au purgatoire. Voilà. Oui.
Ce que dit le frère, là, ça me fait penser au passage, le passage qui est donné où le riche, il meurt, il a eu ses biens dans sa vie, et Lazare, il meurt, et puis il va auprès d'Abraham, et à un moment donné... comme il interpelle Abraham, Abraham lui dit « Mais tu as eu tes biens dans ta vie là ?» Et lui, il a eu que des souffrances, donc maintenant il est auprès de nous, et puis toi, tu es là où tu es. Et en fait, moi, ce passage-là me fait penser un petit peu au... comme si, au niveau du catholicisme, on a repris ce passage-là pour dire aux gens, ben, vous ne pouvez pas être riches. Enfin, ceux qui sont riches, ils auront par la suite ils n'auront pas le paradis, ou quand on est pauvre, enfin, il y avait quelque chose comme ça, et ça me fait penser qu'ils ont peut-être pris par rapport à ce passage-là de façon à faire...
À pousser les gens à être pauvres.
À pousser les,
ou bien à prendre la richesse des gens.
À montrer aux gens qu'il ben, ne faut pas s'enrichir parce que c'est le péché véniel, je crois un truc comme ça, ils appellent ça le péché quand tu as de l'argent ou machin, et pas s'enrichir parce que si tu t'enrichis, tu as tes biens et tout, après tu n'auras pas le paradis.
Oui, quoi. Il est vrai que le catholicisme aussi a été spécialisé dans la prédication de la pauvreté, c'est vrai. D'ailleurs, les vœux, c'est ça, non? Le vœu de chasteté,
de pauvreté.
Vous vous imaginez, on te fait signer, tu seras pauvre. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal.
Mais peut-être, justement, ils se sont basés sur ce passage-là où Abraham dit, ben lui, il a eu ses biens, toi, tu as eu tes biens.
Oui, mais Abraham lui-même était riche. Voilà. Mais c'est pour dire, voilà, pour répondre, mais Abraham lui-même était riche. Donc, c'est une mauvaise compréhension de tout ça. Mais ce passage-là nous aide aussi à comprendre qu'il n'y a pas de purgatoire. Dès que tu meurs, allez. C'est décidé. Voilà. Donc, il n'y a pas de purgatoire. Et on dit même, on précise dans ce passage-là qu'il n'y a pas moyen de passer d'un côté à l'autre. Il n'y a même pas moyen. Donc, et c'est vrai que nous, on avait, quand on était à l'école, les prêtres, c'était nos professeurs. Mais tu voyais Luc... Je ne veux pas, autrefois on disait Père Luc, non mais Luc s'habillait toujours avec la même chemise, mais en réalité il en avait plusieurs. C'était des techniques comme ça, nous on se disait, mais il est vraiment simple, or il avait plusieurs chemises. Donc c'est des réalités dangereuses, et ils ont réussi par cela à appauvrir beaucoup de gens, à créer des souffrances. Vous savez, les historiens neutres, les historiens athées ou païens, mais en tout cas neutres, qui ne sont pas catholiques, ils appellent les années 400 à 1400, donc jusqu'à Luther, ils appellent ça les 1000 ans de ténèbres. Ce sont les 1000 ans du règne du catholicisme. Le catholicisme a régné en maître, parce qu'il règne toujours jusqu'aujourd'hui, mais en maître, il a régné de 400 environ à 1400 environ. Et pendant ces 1000 ans, il contrôlait les universités. Il contrôlait la vie familiale des gens. Il contrôlait tout, la politique. Il contrôlait les rois. Pendant ces 1000 ans, personne ne pouvait bouger, c'est les catholiques qui régnaient à maître. Il y avait même ce qu'on appelle l'inquisition. Il y a plein d'autres choses. C'est pourquoi l'Apocalypse 17, donc l'Apocalypse 17 et 18, appelle le catholicisme la mère de toutes les abominations. La mère de toutes les abominations. C'est vraiment ça. Ce que les gens négligent, c'est cette puissance de séduction. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la force brutale comme autrefois, mais il y a la force de la séduction par l'œcuménisme, par le rapprochement, par la logique de la gentillesse, par la logique des dons du Saint-Esprit, par la logique de l'apparence. Vous savez, l'apôtre Paul nous prévient par rapport à l'apparence dans Colossiens 2. Il dit, faites attention, les gens sous une apparence de piété, une apparence, ils sont abandonnés à leur vision. Donc, ils agissent sur les apparences. Et comme disait notre bien-aimée tout à l'heure, elle disait, mais la personne prie vraiment Dieu en adorant Marie. Mais non, mais c'est une apparence de piété. Ce n'est pas la vérité. Il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller qu'au Père par moi. Même quand on fait autre chose, sincèrement, ça reste la fausseté quand même. Donc ce n'est pas cette apparence-là qui sauve. Parce que cette apparence-là, nous retrouvons ça dans toutes les religions. Nous retrouvons ça chez les bouddhistes, nous retrouvons ça chez les hindouistes, nous retrouvons ça chez les musulmans. Il y a cette apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un paraît sincère qu'il est bien. Non, il est dans l'erreur et l'erreur ne sauve personne. Bien-aimé, est-ce que si tu as mal à la tête, tu prends le mercurochrome parce que c'est un médicament, est-ce que tu seras guéri? Ou bien l'alcool dénaturé, tu vas te brûler. Non, tu ne vas pas être guéri parce que sincèrement, tu prends un médicament. Voilà, donc c'est ça l'erreur que commettent beaucoup de gens. Ils suivent l'apparence, puisque la personne paraît dévouée, Mère Thérèse. Non, C'est de l'apparence. C'est de l'apparence. Oui. J'ai dit même Mère Thérèse, bon, par respect, mais c'est Thérèse, quoi. Voilà.
Une question par rapport à tout ce qu'on dit sur le catholicisme ou sur les religions. Le mécanisme pour le salut est très compliqué. D'accord ? Il faut faire telle chose, il faut prier comme si, il faut faire ça. C'est vraiment très, très compliqué. Et la question que je me pose, c'est que pourquoi les gens n'acceptent pas la grâce qui est aussi simple et ils restent quand même dans ces mécanismes qui sont si compliqués que... Enfin, j'arrive pas à
comprendre.
Parce
que ça donne l'honneur à l'homme. La grâce, le salut par la grâce ne donne pas l'honneur à l'homme. C'est gratuit.
Donc les gens, par exemple, qui font tout ça, pour eux, c'est de l'honneur de faire ce qu'ils font là de...
Oui, oui. Donc ils savent qu'il a payé son salut. C'est lui le chef. C'est lui qui est Dieu. Alors que le salut par grâce, c'est qu'on était perdus, pécheurs, et Dieu nous sauve tous.
Et ça, ils ne veulent pas.
Les gens, les humains ne veulent pas de ça. Il suffit qu'aujourd'hui, comment dire, on nous donne à nous tous des belles chaussures, mais tous on a ces belles chaussures-là. Beaucoup vont préférer porter leurs vieilles chaussures que porter les belles chaussures que nous avons tous ensemble. Parce que ces belles chaussures, ah ben, tout le monde a ça. Voilà. Pourtant, dans les vieilles chaussures qu'il a, c'est lui seul qui a. Voilà. Donc l'homme veut, oui, l'homme veut briller, il veut son honneur. Et la grâce annule ça. C'est ça le problème.
C'est lié à l'orgueil de l'homme.
C'est lié à l'orgueil de l'homme. C'est pourquoi il préfère la religion, puisque la religion lui donne gloire. Donc il a allumé son cierge, il a allumé sa bougie. Là, il sait qu'il a payé. Donc c'est lui qui est honoré, quoi. C'est ça le problème. Et on retrouve ça jusqu'aujourd'hui. Donc même dans les milieux évangéliques. Donc on dit à quelqu'un, c'est en prêchant que tu es dans ton appel, c'est en prêchant que tu es. Donc on amène les gens à être brillants par eux-mêmes. Et c'est ça qui fait leur valeur. Ils ne veulent pas du cadeau de Dieu, que Dieu les conduise et Dieu s'occupe d'eux, comme une maman va s'occuper d'un bébé. Les gens ne veulent pas de ça. Ils veulent eux-mêmes mériter, faire des choses pour se sentir fort. C'est ça qui les entraîne forcément dans les religions. Dernière question ? Ok.
Je trouve que c'est triste ces années-là. On n'a pas vécu dans ces temps-là, puis on est béni parce qu'on est dans un temps où l'Évangile était libre. Enfin, du coup, tu sais. Et c'est triste à penser qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu entendre la bonne nouvelle à cause qu'il y aurait vécu l'Inquisition ou je ne sais pas quoi. Tu sais,
Oui, mais en même temps, ça peut revenir. Parce que si on se laisse intimider, tu veux parler comme ça, on te ferme la bouche. Allez, vous exagérez, tu te tais aussi. L'autre, finalement, nous tous, on va rien dire et la fausseté va prendre de la puissance. Et ensuite, ça va passer par la force brutale et ça peut revenir. Tout dépend de nous. Donc, ce sont ces chrétiens de cette époque-là aussi qui se sont laissés faire à un certain moment. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Même quand tu es seul, vous imaginez Jérémie, son pays est menacé, il prophétise, il dit, ne faisons pas la guerre, devenons esclaves du roi Nebuchadnezzar. Mais seul contre tout un pays, Jérémie, seul, il dit, Dieu m'a dit que nous allons perdre la guerre. Et si nous voulons être heureux, soumettons-nous au roi là qui veut nous envahir et on sera heureux, on sera bénis. Les gens disent, mais toi, tu es fou. Nous soumettre à un idolâtre. Hein? Donc, il était seul. On l'a jeté dans une citerne. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur d'être comme un cheveu dans la soupe. Voilà. Tu es comme un cheveu dans la soupe et ça te dérange. Non, la vérité, c'est la vérité. Ne nous laissons pas faire. Même si on paraît seul. Voilà, il faut toujours professer la vérité. C'est ce qui limite l'influence du mal. Donc à un certain moment, les gens, quand ils voient que le mal est tellement grand, ils se disent, ça ne sert à rien. Non, ça sert toujours à quelque chose. On peut sauver un, deux individus, ça compte. On doit dire la vérité. C'est très important. On doit tenir ferme. Je sais que ce que nous disons là, beaucoup s'ils entendent ça, ils vont dire c'est des extrémistes, c'est des fous. Moi, je dirais oui, je suis un fou, je suis un extrémiste pour Dieu. Voilà. Je ne vois pas comment on peut servir Dieu sans être extrémiste. Voilà. Il faut, le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, il faut être total en servant Dieu. Donc, c'est normal. Quand on était en Israël, il y a une dame qui a commis l'erreur de venir me voir. Je cherche de l'huile ointe. Moi, je dis, oh, mais pourquoi? Oui, mais de l'huile ointe. Quelqu'un m'a demandé de l'huile ointe. Moi, je dis, mais ça a été oint par qui? Oui, mais de l'huile ointe. Moi, je dis, mais c'est de l'idolâtrie, ce n'est pas bon. Ah bon? Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je dis, maintenant, tu vois ça clairement maintenant. Parce que cette huile-là, tu ne sais pas qui a oint cette huile-là. Et deuxièmement, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui agit.
Oui, mais ça va aussi. Ça, cette histoire de huile ointe, c'est vrai, ils ont les petits flacons.
Voilà, les petits flacons.
Mais dans la Bible, ça dit si quelqu'un est malade, imposé. Bon, on peut
prendre. Oui, mais on prend l'huile de la maison.
Oui, je sais.
Parce que bon. Cette huile-là qu'on dit ointe, tu prends ça, tu fais l'omelette, ça va faire. Ça ne va pas faire une omelette spéciale, puisque. Donc, elle a dit, ah oui, bon, heureusement, vous m'avez parlé, bon, je ne veux plus faire ça. Moi, je dis, mais voilà. Tu dis à la personne qui t'a demandé, tu n'as qu'à. Donc, l'idolâtrie amène des aberrations. On nous avait raconté qu'une femme embêtait toujours le guide. Un guide, je veux que tu apportes de la terre d'Israël dans mon pays d'origine. Je crois qu'elle devait être originaire d'Italie. Je veux de la terre d'Israël. Mais le guide lui disait, mais oh, mais il y a la terre d'Israël partout. On est en Israël, mais prends. Un autre jour encore, je veux de la terre d'Israël. Oh, le guide était fatigué. Puis un jour, ils étaient en face du mont des Oliviers. La femme vient voir le guide. Ah ben tiens, j'ai pris de la terre d'Israël. Et puis le guide dit, mais tu as pris ça où? Eh bien, dans le jardin de l'hôtel en face là. Et le guide lui dit, mais la terre là que tu as pris, ça vient d'Italie, parce qu'on a pris ça exprès pour planter les roses. Les roses, et donc la terre d'Italie va mieux avec ces fleurs-là. Ouais. Donc l'idolâtrie amène des aberrations. Or, comme notre sœur a dit, c'est simple d'accepter la grâce de Dieu, d'accepter la Bible, d'accepter que Dieu s'occupe de nous gratuitement, et d'accepter que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Quoi. C'est très simple et c'est gratuit. Mais bon, on n'en veut pas parce que justement c'est gratuit. Et les humains, ce qui est gratuit a peu de valeur. Or, c'est faux. C'est la grâce, c'est la bonté de Dieu. Donc, ça sera notre sujet du mardi prochain, la grâce et les œuvres. Et puis, pour le concert du 27 mai, les tracts sont disponibles pour ceux qui veulent voir le frère Frel pour avoir les tracts à distribuer pour le concert du 27 mai. Donc nous allons prier que nous puissions tenir ferme dans la vérité malgré la puissance séductrice du catholicisme qui utilise toutes sortes de moyens. Parfois il va utiliser les évangéliques pour entraîner les autres évangéliques dedans. Nous devons être très prudents, rester fermes sur la vérité, car seule la vérité sauve. Seigneur, nous te remercions de nous aider à lire la Bible, parce que dans la Bible se trouve ta parole qui est la vérité. Nous te remercions de nous aider, Seigneur, à aimer la vérité et à croire que seule la vérité sauve. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la détermination, parce que nous sommes des humains. Devant certaines pressions, parfois nous fléchissons. Nous ne voulons pas fléchir les genoux devant Baal. Nous ne voulons pas fléchir les genoux devant les compromis. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Manifeste-toi, Père éternel, et aide-nous, remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions accomplir ce que nos prédécesseurs ont accompli, Pierre, Paul, Jean, Jacques, qui ont tenu ferme concernant la vérité inscrite dans la Bible. À toi la gloire, la louange pour tous tes bienfaits. Merci de soutenir ton peuple qui est persécuté dans le monde entier à cause de la vérité. Et fais en sorte, Seigneur, que les chrétiens ne reculent pas. Parce qu'en reculant, il donne de la puissance au diable. Comme c'est écrit aussi, celui qui est dans la négligence est frère de celui qui détruit. Nous, nous voulons, Seigneur, travailler, dire la vérité, ne pas chercher à blesser les autres, ne pas chercher à montrer une quelconque forme de supériorité, mais parler au temps convenable et ne jamais s'écarter de la vérité. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Nous prions pour la conversion des catholiques, nous prions pour la conversion des papes, des prêtres catholiques, au nom de Jésus. Manifeste-toi dans notre région de Normandie pour en sauver, Seigneur, une grande quantité. Au nom de Jésus, nous sommes confiants que nous allons voir ces conversions. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.